sur Radio Campus Tour. Vous écoutez Parasol les bords de Loire, notre quotidienne estivale. Savez-vous, chers auditeurs, que la mission Val de Loire est un syndicat mixte interrégional porté par les régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Elle a été créée en 2002. Elle joue un rôle de coordination pour l'État, les collectivités et tous les acteurs du site UNESCO. Alors, si tout ça n'est pas très clair pour vous, pas de panique. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio deux invités qui pourront vous dire tout des arcanes de cette mission Val de Loire. Alors, bonjour Bruno Marmiroli.
Bonjour.
Bonjour Francis Vautier.
Bonjour.
Et j'ai le plaisir d'avoir également avec moi en studio une voix que vous connaissez déjà. Chers auditeurs, si vous écoutez assidûment l'émission Sortez, il s'agit de Julien. Bonjour Julien.
Bonjour Mélissa, bonjour à tous.
Et cette saison, tu seras notre volontaire en service civique.
C'est ça, sur Sortez tous les jours en direct à partir du 14 septembre.
Alors, chers auditeurs, tenez-vous prêts, cette année, c'est Julien qui sera à la suite d'Alexandre et de Chloé. Alors, tout d'abord, messieurs, est-ce que vous voulez préciser à nos auditeurs qu'est-ce que c'est cette mission Val de Loire qui a été créée en 2000, donc ça a 20 ans, mais d'où ça vient, en quoi ça consiste? Qui a eu cette idée folle d'inventer la mission Val de Loire?
Alors, peut-être je commencerai brièvement, mais juste pour le préambule, pour essayer d'expliquer un peu, effectivement, ce qui n'est pas forcément très clair quand on lit juste, effectivement, l'introduction et la définition stricte de ce qu'est la mission. Elle n'a pas été créée il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, c'est l'inscription. En 2000, c'est effectivement l'inscription du Val-de-Loire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui fête ses 20 ans en 2020. La mission, elle date de 2002, donc elle a 18 ans, elle arrive un peu après, et en fait, c'est une structure qui est inventée pour accompagner, finalement, les modalités de gestion, effectivement, de ce bien étendu qu'est le paysage culturel du Val-de-Loire tel qu'il est inscrit. Donc, c'est une structure dont l'objectif principal, hein, pour être très synthétique, c'est la valorisation des critères de l'inscription. C'est ouais. Vraiment l'essentiel et l'essence même de son travail.
Alors, inscription au titre des paysages culturels. Alors, est-ce que vous voulez expliquer, messieurs, qu'est-ce que c'est un paysage culturel et qu'est-ce que ceux de la région ont de spécifique? Pourquoi ils ont été choisis? Élus, alors, je ne sais pas.
Alors, élus, non, ils ont été choisis suite à de longs débats. On aura l'occasion de revenir sur ces débats, c'est assez passionnant parce que c'est toujours il y a encore des débats sur le sujet. Mais très brièvement, il y a trois critères, hein, qui ont prévalu et qui ont justifié l'inscription. Des critères on va dire, d'intensité patrimoniale, donc effectivement un certain nombre d'éléments patrimoniaux majeurs. Je vais pas revenir dessus, je pense que beaucoup de gens les connaissent, Chambord, Chenonceau, Chaumont, enfin la plupart des châteaux sont relativement bien connus. Peut-être revenir quand même sur le territoire dont on parle, c'est un territoire de 300 km de rives de fleuves, hein, et de fleuves qui vont donc en amont de Sully-sur-Loire à Chalonne-sur-Loire, donc qui recouvre évidemment, qui traverse quatre départements et qui traverse également peu ou prou deux régions, pas tout à fait, mais... et donc une intensité patrimoniale remarquable, deux périodes de l'histoire de France qui sont illustrées de manière singulière et évidemment reconnaissable et significative, qui sont la Renaissance, bon ça on est à peu près tous d'accord là-dessus, et puis une période moins connue qui est le siècle des Lumières, donc le 18e, pour d'autres raisons. Et puis un troisième critère qui nous intéresse beaucoup, qui est le développement harmonieux, équilibré des communautés humaines et du fleuve. Et ça, c'est probablement la façon dont on pourra aborder ou qualifier ce que c'est qu'un paysage culturel, c'est-à-dire une œuvre commune conjuguée des hommes et des femmes et de leur environnement plus naturel, mais de leur environnement paysager. Et tout paysage, évidemment, est culturel, mais on voit bien que derrière, il y a l'idée que le dialogue, plus il est équitable et plus il est harmonieux, plus il valorise finalement ces paysages et qui maintenant figurent effectivement sur cette liste du patrimoine mondial comme une forme de reconnaissance internationale.
Alors un paysage culturel, ça veut dire qu'il n'y a pas de paysage non construit, ça n'existe plus, le paysage naturel?
C'est un long débat, je ne sais pas si on va l'ouvrir tout de suite. Des paysages naturelle en Europe, non. Et même, on a maintenant démontré, enfin, il y a pas mal de chercheurs qui ont montré, des anthropologues, qui ont bien montré que même les paysages qu'on pouvait qualifier de naturels, type forêt amazonienne ou autre, étaient quand même des forêts cultivées, jardinées, et que la trace de l'homme est partout. Et alors en plus, si on se place avec une vision de l'anthropocène, la place de l'homme est partout, parce que de toute façon, même là où il n'est pas, il est présent à travers l'incidence qu'il a eue sur le climat. Donc ça finalement, son empreinte est effectivement partout. Donc on pourrait considérer que les paysages sont tous culturels.
Est-ce qu'il y a une échelle pour évaluer l'intensité patrimoniale ? Est-ce qu'il y a des... Comment on mesure ça ?
Le nombre, déjà, la quantité, si on regarde juste sur ce qu'on appelle la zone tampon, qui est la zone cœur étendue un peu aux limites des communes, donc qui longe la Loire sur ces 300 km, on a à peu près 900 monuments classés ou inscrits, ce qui correspond à peu près à trois fois plus, entre 2 et 3 fois plus que la moyenne nationale. Donc là, il y a déjà un indice. L'échelle, ces monuments pour certains sont uniques. Je vais citer Chambord parce que c'est vraiment la figure de proue du navire, mais voilà. Mais il ne faut pas pour autant que ça masque un ensemble de patrimoine qu'on pourrait qualifier de petit parce que moins répertorié, moins connu, mais qui contribuent et qui sont des témoignages aussi très très forts des présences humaines et puis de la valeur des paysages.
Et alors, il y a peut-être une, je ne sais pas si le terme est approprié, mais une identité visuelle, disons, sur ce paysage, parce que on peut retrouver hein, sur votre site, il y a 4 éléments majeurs, donc c'est le fleuve, je crois la vigne, la pierre, et le 4e m'échappe. Donc, est-ce que vous voulez nous préciser, Francis Vautier, de quoi il est question ?
Oui, bah effectivement, c'est finalement la façon la plus simple que l'on a trouvée. Quand je dis que l'on a trouvé, c'est pas nous qui avons proposé cette définition, c'est Louis-Marie Coyot, en fait, hein, qui était géographe et qui a écrit pour une bonne part le dossier d'inscription du Val-de-Loire sur la liste du patrimoine mondial et qui a trouvé cette manière, finalement, en dehors des critères de l'UNESCO, de présenter le territoire en utilisant des éléments simples et avec leur culture au sens activité, savoir-faire humain, donc l'eau, la pierre, le jardin, la vigne, comme étant effectivement un petit peu les 4 points cardinaux finalement de ce paysage. Mais il le dit lui-même, en fait, ce sont des paysages pacifiants, ce sont ces mots, avec, parce qu'effectivement on n'a pas beaucoup de relief, même s'il y a par endroit quand même pas mal de coteaux, mais on est quand même toujours dans des lignes qui sont à l'horizontale, même si on a des coteaux. Ça reste horizontal, on n'a pas de promontoire, on n'a pas de relief qui vient finalement de manière assez évidente, voilà, brusquer un petit peu la vue. Donc on a des paysages qu'il qualifie de pacifiants et qui sont constitués de ces 4 éléments, donc le fleuve, l'eau évidemment, avec en particulier la navigation qui a eu lieu, enfin qui a eu cours sur ce fleuve, notamment au 18e, qui a été un petit peu l'apogée de la marine de Loire. Enfin, un petit peu complètement l'apogée de la marine de Loire, et tout le patrimoine fluvial qui est lié, donc les ponts, les quais, la construction des quais, des ports, etc. Et on en a encore quand même énormément de traces. On a souvent tendance à comparer la Loire au 18e à l'autoroute A10 aujourd'hui, sauf qu'elle n'était pas tout à fait orientée dans le même sens. Mais c'est vraiment, on dit souvent que le Val de Loire est né de son fleuve, c'est vraiment quand même ce trafic de marchandises, de essentiellement de marchandises, mais aussi de personnes, qui a concouru au développement des villes. Donc là, on aborde plutôt le côté architectural et donc pierre, tuffeau en l'occurrence, avec effectivement les châteaux, mais aussi les villes et tout le patrimoine vernaculaire aussi qui est lié à ces 4 cultures, notamment la vigne, qui est quand même une culture qui façonne énormément les paysages. Qui est en fait l'une des rares cultures qui permet à un vigneron d'aller de la production jusqu'au produit fini. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Les céréaliers ne font pas forcément tous leur pain, loin de là, mais même si on y revient. Mais en tout cas, c'est une singularité et c'est aussi une culture qui évolue sur le temps long. Parce qu'on considère qu'un pied de vigne, c'est bon, 80 ans peut-être au maximum, mais enfin, en tout cas, on est sur peut-être même plusieurs générations de viticulteurs. Donc c'est vraiment une culture qui a façonné et marqué la construction de ce paysage. Et puis le jardin, Pour terminer, où là on est finalement, on pourrait même dire les jardins, on pourra peut-être l'évoquer plus largement, mais les jardins, puisqu'on a à la fois le palais de plein air qui correspond un petit peu à ce qu'on veut montrer à tout le monde, à tous, en dehors du château ou de la demeure de prestige, jusqu'à aujourd'hui, mais même par le passé, aux jardins vivriers ou ouvriers ou familiaux, qui sont quand même quelque chose qui marque aussi sérieusement le paysage. Et en passant par toutes les cultures maraîchères ou l'horticulture sur l'Anjou aujourd'hui et beaucoup l'Orléanais hier. Donc tous ces éléments vraiment, selon Louis-Marie Coyot, étaient un petit peu les quatre points cardinaux qui ont façonné avec leur savoir-faire et leur culture le paysage que l'on connaît aujourd'hui.
Moi, quand je vous entends parler de tout ça, je pense à un élément qui pour moi un peu sublime toute cette vallée, c'est la Loire à vélo. Qui traverse donc d'est en ouest au fil de la Loire. Cette route, est-ce que votre mission a eu peut-être un impact sur cette route? Est-ce qu'elle l'a permis de sublimer tout ça? Je ne sais pas.
Alors, à l'origine, la mission c'est pas la mission qui est à l'origine de ce projet. C'est un projet qui est très ancien, hein, ça fait longtemps qu'il est développé. Par contre, la mission, alors il y a quelques années maintenant, a contribué en particulier au développement de la marque Loire à vélo. C'est-à-dire des prestataires qui s'associent en fait à ce projet en facilitant l'accueil des cyclotouristes ou des cyclistes sur l'itinéraire. Mais ça, ça n'est plus le cas depuis longtemps maintenant. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est développé par les services touristiques, des deux régions concernées. Mais effectivement, tout le monde considère que c'est un franc succès et c'est une excellente manière quand même de traverser et de découvrir ces paysages à un rythme en plus qui s'y prête. Parce qu'on est quand même sur la lenteur du déplacement et voilà, on a le temps de profiter de la Loire et aussi des paysages qui l'entourent.
Alors, est-ce que quel rapport au temps vous avez dans votre travail, messieurs, parce qu'il y a le moment où le dossier a été déposé, donc il y a non pas il y a 20 ans, mais du coup, donc on a bien compris que c'était non pas en 2000, mais en 2002 que la mission a été créée. Mais est-ce que vous travaillez sur une photo, disons, de la région à cette époque-là, donc quelque chose qui, en plus, avait été étudié en fonction du patrimoine, donc à un passé? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Comment vous faites pour est-ce que vous actualisez constamment? Est-ce qu'il y a une espèce de magie de pouvoir d'arrêter le temps pour votre mission? Comment ça se passe par rapport au temps?
Alors, je vais revenir à l'intitulé de l'inscription. Donc, le Val de Loire est inscrit au titre des paysages culturels et a été ajouté évolutif et vivant. Pour bien préciser, pour celles et ceux qui en doutaient, que ces paysages-là, ils sont habités. Il y a 900 000 habitants quand même sur ces rives, avec des métropoles, avec des territoires qui sont effectivement, ce que vous dites, qui sont en évolution quotidienne. Donc effectivement, ça semble quasi paradoxal avec une forme de mission de conservation, mais encore une fois, on n'a jamais pris le rôle de la mission comme lié à la conservation stricto sensu d'éléments patrimoniaux qui seraient figés. Il s'est toujours agi d'éléments avec lesquels qui allaient évoluer et qui allaient évoluer avec les habitants, avec les usages, avec les pratiques, mais aussi avec les modes de pensée. On ne pense plus du tout le patrimoine, sa façon d'en parler, sa façon de le visiter ou même sa façon de le préserver ou de l'inscrire dans des politiques publiques en 2020 comme on pouvait le faire en 2000 ou en 90. Tout ça a évolué. Il y a aussi une crise écologique qui a quand même beaucoup fait évoluer la façon dont on devait finalement se construire avec ce patrimoine-là et la façon dont ce patrimoine devait se mailler, dialoguer très fortement avec un environnement naturel, avec beaucoup de guillemets, hein, mais en tout cas avec un environnement dans lequel chacun aspire à vivre correctement. On a parlé de la Loire à vélo, on pourrait parler de la batellerie, on pourrait parler de tous ces moyens qui sont des façons de découvrir les paysages, un cadre de vie de proximité, parce que c'est tout à fait accessible à tous les habitants, et de mesurer qu'il y a des invariants qui constituent des valeurs socles, un peu, fédératrices, et puis il y a tout un tas d'éléments périphériques qui, eux, évoluent, et c'est bien normal, comme n'importe quelle société, quoi. Mais je crois, enfin, on est à peu près convaincu qu'il y a quand même un socle d'invariants, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on essaye de comprendre ce qui nous y attache, en fait. Et la façon dont ces invariants-là sont susceptibles d'être préservés. C'est pas forcément une dimension matérielle, hein, ça peut être une dimension immatérielle. La qualité d'un paysage, ça s'exprime finalement quasiment plus par des données immatérielles que par des éléments tangibles.
Mais c'est subjectif aussi. Comment dire, cette valeur...
C'est culturel, donc subjectif, donc inscrit dans l'histoire d'une région, donc inscrit dans l'histoire d'une forme de civilisation du fleuve. Ouais. Les dimensions objectives, elles seront forcément extrêmement limitantes. On va vous égrener le nombre de monuments, on va vous égrener, je sais pas quoi, le nombre de linéaires de ripisylves à protéger ou le nombre de sternes qui nichent sur les grèves de Loire. C'est pas pour autant qu'on aura qualifié la nature du lien anthropologique qui nous relie à ce territoire. En fait, il faut vraiment dépasser ça et l'idée, c'est quand même qu'on porte le débat sur d'autres champs que sur des dimensions uniquement factuelles, quoi.
Oui, complètement. Et puis quand on parle de paysage, on parle de perception, en fait. Le paysage n'est perçu que par celui qui le contemple, qui le regarde. Donc chacun, on a tous notre perception, et donc une perception qui va évoluer ou varier même d'un individu à l'autre. Donc on est vraiment dans la question aussi de la manière dont ces paysages sont représentés ou dont on se les représente. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est forcément subjectif. Même s'il y a des invariants qu'on peut qualifier ou identifier, ça reste quand même du domaine de la perception de chacun, un paysage.
Bien, je vous propose, messieurs, de faire une première pause musicale dans cette émission Parasol Les Bords de Loire. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours.
Thank you.
Parasol les bords de Loire, vous écoutez Radio Campus Tours. Je suis toujours en studio avec Bruno Marmiroli et Francis Vautier, sans oublier bien sûr Julien qui animera très prochainement Parasol les bords de Loire. Non, l'émission sortait. Alors Francis Vautier, vous parliez de regard justement, de champ de vision et d'expérience de castor hors antenne. Alors est-ce que vous voulez peut-être redire ce que vous expliquez à nos auditeurs ?
Oui, oui, ben on évoquait effectivement le fait qu'un paysage finalement n'est perçu que par celui qui le contemple, qui le regarde. Donc on a chacun sa perception du paysage que l'on voit. Et voilà cette petite expérience pour finalement voir, enfin nous rendre ou se rendre compte qu'on peut avoir des approches différentes ou des angles de vue différents. Et c'était effectivement assez sympathique puisqu'on prenait un miroir, on se le mettait sous le nez comme quand le castor traverse un cours d'eau et que finalement il a l'eau sous son nez et qu'il voit pas du tout la même chose que ce qu'on voit. Et c'est assez perturbant, c'est même assez vertigineux parce que on passe sous les arbres, on passe sous des branches et on a plus du tout les mêmes repères que l'on a quand on est les pieds sur terre avec le champ de vision habituel, ce qui prouve bien que voilà, la manière dont on regarde les choses finalement, elle dépend de beaucoup de choses et que ça peut évoluer et que c'est je pense ce travail-là qui est intéressant à faire pour pas rester forcément à des choses qui sont a priori figées puisque justement c'est pas le cas.
Et alors cette idée de dire peut-être qu'on va perdre l'habitude d'avoir un champ de vision disons élargi, à force de portables, d'écrans et tout. Est-ce que c'est une question que vous vous posez sur vos actions de se dire, bah, est-ce que les gens vont peut-être moins s'intéresser à leur environnement puisqu'ils vont le regarder à travers un écran que comment vous
Alors c'est une question qu'on se pose parce qu'on en est nous-mêmes victimes, parce qu'on est très consommateurs d'écran. Mais on a un peu la naïveté de croire que la Loire permet... une autre forme d'expérience, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois sur son écran, d'ailleurs tout le monde l'est, et en même temps l'espace Loire, rive, berge, etc. Propose à de façon très simple et en même temps encore faut-il faire la démarche de s'immerger dans un territoire d'exploration et on voit beaucoup de jeunes qui ont cette double faculté, c'est-à-dire à la fois d'être passionné par les écrans comme tout le monde, mais en même temps de tout lâcher pour embarquer sur un radeau, sur un canoë. On a parlé de la Loire à vélo, mais là, c'est vraiment de s'immerger dans le milieu et de faire cette expérience. Et c'est étonnant comme c'est un des fleuves qui permet ça, c'est-à-dire de sortir complètement de son quotidien et de s'immerger dans un ailleurs, on appelle, enfin voilà, dans un territoire qui aurait été réensauvagé, dans lequel d'ailleurs il est connu des naturalistes et des passionnés d'ornitho pour ça, c'est que c'est un couloir de migration exceptionnel, donc avec une faune, flore, un cortège très important. Et donc finalement, une procédure un peu de réattachement à un milieu pseudo-naturel. Et donc nous, on pense quand même, on s'interroge, mais on pense quand même que beaucoup de jeunes ont ce don d'ubiquité, d'être à la fois en un lieu avec un territoire très restreint et en même temps très accessible, ce que sont les réseaux, et puis une autre faculté qui est d'aller explorer son champ, et finalement c'est pas si loin hein, de franchir la berge et d'embarquer, ça demande un petit lâcher prise, mais on en côtoie beaucoup, et on trouve que l'expérience est fascinante.
Est-ce que tu as le don d'ubiquité, Julien ?
Bah, effectivement, c'est pour ça que j'ai aussi parlé tout à l'heure de la Loire à vélo, parce que moi j'ai fait l'expérience cet été de partir avec un ami, donc faire la Loire à vélo, on est allé jusqu'à Orléans pendant quelques jours, et c'est vrai qu'il y a cette perception, cette vision qui est différente, même dans des lieux que je connais, comme à Tours par exemple, où je passe régulièrement tous les jours, et bah le fait d'être à vélo, le fait d'avoir un rythme différent, de prendre le temps de contempler les choses, et ben on a une perception différente. J'ai eu l'impression de voir des choses que j'avais jamais vues. Et donc le long du tracé, on a l'impression de prendre le temps d'avoir des paysages à contempler, des choses comme ça, et avoir cette impression de détachement du temps qu'on n'a pas forcément au quotidien avec les réseaux, le téléphone, tout ça, qui nous pousse à toujours être occupé tout ça, alors que sur cette Loire à vélo, et on est complètement détaché du temps et on se laisse porter, quoi.
Et alors, on peut aussi dire peut-être, messieurs, que dans ces paysages, il y a aussi un immense paysage sonore autour de la Loire. Il y a vraiment, vous parliez des oiseaux, mais il y a le fleuve, il y a énormément de choses, même les arbres, tout ça, ça fait du bruit, des sons en tout cas. Donc, comment vous travaillez sur ces questions-là?
Alors c'est marrant, hein, comme quoi les sujets se croisent, mais effectivement c'est une question alors qui nous interroge et qui nous intéresse surtout beaucoup, parce que je pense que c'est ce qui contribue à ce côté apaisant et ce côté lâcher prise quand on s'approche du fleuve, même quand on est sur la berge un soir d'été où on a une ambiance qui est radicalement différente de celle qu'on a connue toute la journée avec les trépidations de la vie, la circulation et tout, et même quand, parce qu'on entend quand même souvent la circulation quand on est sur les bords de Loire ou sur la Loire, malgré tout, on est happé par une ambiance qui est radicalement différente, des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui ont tendance vraiment à effectivement nous apaiser et à nous faire oublier tout ce qui s'est passé dans la journée. Et ça, c'est une faculté qu'ont beaucoup de milieux naturels, mais qu'on, à mon avis, que pas, peu de fleuves ont encore aujourd'hui, parce qu'on a gardé ce caractère... qui s'est ensauvagé, en tout cas on a gardé ce caractère naturel. Et donc effectivement la question du paysage sonore nous intéresse beaucoup, parce que c'est finalement une autre façon de voir des paysages. C'est-à-dire qu'on pourrait écouter un son, fermer les yeux et imaginer un paysage, on serait peut-être complètement à côté de la plaque, mais en tout cas ça fait partie de la perception et de la manière de voir un paysage que je trouve vraiment très intéressante.
On a pour... pas compléter, mais quoi, alimenter l'échange. Je pense qu'on a appris, c'est un peu ce qu'on évoquait, à analyser les paysages pour qu'ils rentrent dans des catégories. Ça a été aussi l'un des objectifs de l'inscription. On a appris à les disséquer selon des critères géographiques, etc. On a beaucoup moins appris à les écouter. Et ce travail sur le son nous confronte finalement à une nécessité de tendre l'oreille et d'aller à l'écoute, et donc de considérer l'altérité. Et en ça, ça ouvre des perspectives vastes. On est en train d'ouvrir la boîte avec plein de partenaires, Boris Jolivet et d'autres, qui travaillent essentiellement sur le son, mais aussi avec des enregistrements qui sont faits par la mission de voix, de dialogue, etc., autour de fleuves. Parce qu'il y a une façon, enfin, il y a le fleuve, il y a la parole du fleuve à travers l'eau, les sédiments, la faune et la flore, mais aussi les gens qui habitent ce fleuve et qui en parlent. Ça fait aussi partie de, finalement, d'une forme de cartographie sonore du paysage habité. Et tout ça, c'est, de mon point de vue, une façon assez nouvelle de qualifier, d'essayer de comprendre à la fois les paysages, mais aussi ce qu'on y fait. Ce qu'on y fait et la façon dont on va pouvoir cohabiter, qui est quand même un peu l'enjeu. Bon.
Parce que dans un paysage sonore, il y a plusieurs strates aussi, il y a plusieurs choses. Donc on entend les animaux, on entend énormément de choses. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un paysage sonore puisse être classé au même titre qu'un arbre, au même titre qu'un monument ça. Parce qu'en fait, c'est aussi une trace d'un instant T. Donc du coup, de se dire peut-être que dans 10 ans, telle espèce aura disparu. Donc en fait, elle n'existera plus dans le paysage sonore.
C'est une idée excellente. Ça sera probablement difficile à attraper, mais en tout cas, travailler sur cette question-là, effectivement, la valeur de la qualité du son, de l'écoute dans tel ou tel paysage. On a fait des expériences avec Boris Jolivet sur la qualité d'un certain nombre de paysages pour la restitution du bruit là, en l'occurrence, c'était une oie sauvage qui arrivait. Oui, effectivement. Alors certains, il y a des groupes qui travaillent sur la cartographie sonore des paysages. On en a rencontré quelques-uns. Nous, on n'est pas encore armés là-dessus, mais en tout cas, ce sont des expériences qu'on a au moins envie de valoriser.
Parce qu'on peut trouver, après, bon là, on s'écarte des paysages, en tout cas des zones dites naturelles, mais parce qu'on a aussi des historiens, même des médiévistes, qui travaillent sur qu'est-ce que ça sonnait en fait, telle ville au Moyen-Âge. Donc ils vont aller reconstruire des paysages. Vous voulez réagir, Francis Vautier ?
Oui, bah, ça me fait penser au travail qu'on a fait l'an passé sur une série, une web-série qui s'appelle Portrait de Loire à la Renaissance, où effectivement l'idée c'était quoi ? C'était de montrer à quoi ressemblait la Loire et le Val-de-Loire au XVIe siècle. Et il y a eu un travail justement de sonorisation d'images d'archives, alors d'animation d'images d'archives et de sonorisation, et il y a eu une sorte de, alors sans prétention, mais une sorte d'archéologie sonore de réaliser pour essayer de reconstituer ce que pouvaient être les sons de l'époque par rapport à des écrits ou des images qu'on avait en notre possession. Et donc oui, effectivement, ça c'est, je pense que c'est vraiment intéressant de voir à quel point les choses ont pu évoluer. Et pour revenir sur la question du paysage sonore, moi, pour moi le paysage c'est avant tout un cadre de vie pour des habitants, effectivement des gens qui ont des activités dans le cadre de ce paysage. Et je pense que dans le cadre de vie, on ne peut plus en tout cas exclure la question de la pollution sonore, parce qu'on parle habituellement ou communément de la pollution visuelle, mais je pense que le cadre de vie sonore est aussi important que le cadre de vie visuel et contribue autant, à mon avis, à justement avoir un cadre de vie agréable pour des habitants.
Là, et puis après, pour dire, pour que le tableau soit complet, on peut aussi dire mais il y a des odeurs aussi, de la terre sent telle chose, telle plante, telle... Je ne sais pas si vous... aussi cette dimension-là, comment elle est...
Ah oui, complètement. On n'en est pas encore là. On se préoccupe plutôt sur la question du son, mais ce serait intéressant. Toutes ces dimensions-là, finalement, toutes les dimensions sensorielles d'un paysage sont à intégrer. Mais effectivement, j'ai en tête effectivement un acteur du territoire du côté de l'Anjou qui, pour lui, au-delà du son, parce qu'on lui proposait de reconnaître des sons de nature, et en fait, lui, il nous disait que finalement, ce qui l'a le plus marqué, ce sont les odeurs. C'est-à-dire que lui, dès qu'il arrive en bord de Loire, il a tendance à réagir par rapport aux odeurs et moins au son. Donc c'est aussi une question de perception. On parlait de perception différenciée, enfin, ou différente selon les individus. Je pense que ça joue aussi là-dessus. Moi, je suis très sensible au son. D'autres sont sans doute plus aussi sensibles aux odeurs. Et ça fait partie de notre propre perception d'un paysage.
Bah, finalement, c'est un petit peu la morale de tout ça. C'est chacun a sa perception différente d'un même lieu, mais on a tous une façon différente donc de l'apprécier. Et c'est ça aussi que vous valorisez, c'est un même lieu, chacun sa perception et le plaisir partagé de profiter de ces endroits.
Ouais, c'est une bonne définition, ça nous va bien.
Ça nous va
comme
bien.
Définition, ouais, ouais.
Tant mieux.
Alors je voulais en revenir sur les sons, parce que là, c'est un outil formidable pour faire des actions de médiation, le sonore. Donc on peut imaginer un kim des odeurs autour de la Loire, pourquoi pas, mais le son c'est quand même plus accessible. Et il me semble d'ailleurs qu'on trouve des podcasts en ligne. Donc vous avez réalisé des séries sonores, alors des fois vidéo et sonore. Donc est-ce que vous voulez nous présenter ces projets ?
Alors il y en a plusieurs. Donc je sais pas dans quel ordre je vais les prendre. Donc je parlais de Portrait de Loire à la Renaissance tout à l'heure. Je vais pas le réévoquer. Il y en a deux qui me semblent intéressantes. C'est une autre web série qu'on est en train de réaliser, de co-réaliser, coproduire actuellement, qui s'appelle Plaisir de Loire, qu'on voulait réaliser dans le cadre des 20 ans de l'inscription. Parce que vous voyez, il y avait le côté plaisir. Donc c'était assez, on va dire, assez festif, et ça correspondait bien à un anniversaire. Et finalement, c'est une web série qui montre essentiellement par l'image des images d'archives réalisées au cours du XXe siècle par des cinéastes amateurs, et donc qui nous sont fournis par le fonds cyclique de la région Centre-Val de Loire, et qui montre en fait à quel point dans la première moitié jusque dans les années 70-80, les Ligériens avaient de nombreux liens et de nombreuses activités liées au fleuve, que ce soit la navigation, le canotage, la baignade et autres. Donc ça montre effectivement à quel point les liens étaient forts à cette période. Après, les gens ont plutôt eu tendance à tourner le dos au fleuve, mais ça revient. Donc ça, c'était aussi un moyen de faire le lien, de montrer ce qui s'est fait à cette époque, ce qu'on pourrait plus faire aujourd'hui pour un tas de raisons. Mais donc il y a cette série là, et puis il y a une autre série. On parlait tout à l'heure un peu de l'histoire de l'inscription. Une autre série de podcasts qu'on est en train de réaliser également, qui va raconter justement l'histoire de l'inscription, les coulisses de l'inscription. avec les personnages qui ont compté à l'époque, donc juste avant les années 2000, hein, puisqu'en gros ça a commencé à peu près en 1994 et donc le Val de Loire était inscrit en 2000. Et donc là, on va pouvoir entendre les quelques personnages, hein, ils ne sont pas très nombreux, il y en a 6 actuellement, qui ont compté et qui vont nous compter cette histoire de l'inscription du Val de Loire sur la liste du patrimoine mondial. Et c'est riche d'enseignements, parce que même nous, on était sans doute les mieux placés pour la connaître, et finalement on s'est aperçu qu'on la connaissait très mal. Et c'est riche d'enseignements parce qu'il y a une sorte de retour aux sources, sans faire de mauvais jeu de mots, puisqu'on s'aperçoit à quel point les préoccupations de l'époque étaient plus environnementales que patrimoniales, c'est-à-dire qu'on considérait plus le paysage comme sous son angle naturel ou biodiversité et la relation que l'homme entretient avec ce paysage, plus que les grands châteaux ou le patrimoine monumental. Donc c'est assez marrant puisque voilà, ça fait écho à l'actualité du moment où du coup les préoccupations environnementales sont devenues un enjeu quand même assez fondamental.
Un dispositif campus et bivouac. C'est quoi ça ? C'est ça ?
Alors campus et bivouac, alors je pense que ça fait
escale.
Ça fait référence à une autre série de podcasts, effectivement.
Que de choix.
Que de choix. Qui sont une formule que l'on a proposée pour finalement, non pas remplacer, mais faire patienter tous les gens qu'on souhaite accueillir aux escales qui vont célébrer les 20 ans, donc l'année prochaine, puisqu'on a reporté celle prévue en 2020 en 2021. Et on a proposé, pour faire patienter, d'aller à la rencontre de certains des protagonistes de ces futures escales pour nous raconter de quelle manière ils sont impliqués. Donc ça peut être une personne responsable de la culture et du tourisme, par exemple au Poncé, qui gère donc un lieu culturel. Ça peut être aussi des gens qui animent des guinguettes, enfin qui proposent des lieux de guinguettes et qui ont une programmation culturelle, en passant par effectivement des étudiants qui ont travaillé dans le cadre de campus sur en l'occurrence le côté agricole de la vallée de l'Authion dans Anjou, enfin voilà, donc c'est un moyen de présenter finalement ce qu'on va pouvoir proposer l'année prochaine, j'espère.
Et alors, est-ce qu'on peut savoir quelle action vous allez proposer l'année prochaine ou c'est difficile encore d'en dire plus ?
Bah non, on peut. Alors déjà, on peut regarder la série de podcasts, puisque ce sera un bon moyen de savoir ce qu'on va proposer. Mais non, on va, je pense, reproposer à peu près le même format d'escale. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas, avec nos partenaires. Et nos partenaires sont tous impatients d'être à nos côtés. Donc avec finalement une journée qui est plus destinée à échanger sur. On avait tendance à dire que c'est la journée la plus sérieuse parce qu'effectivement, on va évoquer des sujets un petit peu plus techniques ou plus ardus ou plus sur la connaissance ou plus sur l'aménagement du paysage ou le travail effectivement de jeunes étudiants. Mais c'est un moyen de partager un peu tout ça. Donc ça, ce sera tous les jeudis des escales que l'on proposera. Le vendredi, la volonté, c'était d'accueillir des scolaires parce qu'on a développé des outils de médiation cette année, donc qui ont été développés, qu'on va tester en fin de cette année et qu'on proposera aux scolaires aussi l'année prochaine. Et puis un week-end un peu plus, on va dire, grand public, festif, avec à la fois des moyens de médiation, des outils un peu de médiation qui permettront aux gens d'être de manière collaborative et participative, de s'approprier des contenus ou de, voilà, il y a avec des aspects ludiques, des projections, alors effectivement des expériences sonores, enfin voilà, un tas de choses pour finalement proposer des moyens de découvrir un peu tous les aspects des paysages qui nous entourent, comme on l'évoquait il n'y a pas si longtemps.
Alors la mission, c'est 8 personnes, c'est une équipe de 8 personnes, alors est-ce que vous voulez peut-être présenter vos collègues, dire qui fait quoi, parce qu'il y a de l'ingénierie patrimoniale et paysagère, ingénierie et médiation culturelle au pluriel. Alors, est-ce que vous voulez dire un mot peut-être sur cette équipe ?
Alors, maintenant, on est une dizaine. Et alors, on va plutôt parler, plutôt que de secteur, on va plutôt travailler sur de façon un peu transversale en fonction des projets, mais en gros, ce sont des personnes qui sont sur le champ administratif, sur le champ de la médiation culturelle et sur le champ de l'ingénierie territoriale. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le qualifier de façon très schématique, c'est-à-dire médiation culturelle tout public et puis ingénierie territoriale, c'est plus en lien avec les collectivités. Pour faire très court, sans rentrer dans des détails qui sont un peu techniques, mais voilà. Et c'est une dizaine de personnes, ce qui est finalement pas si important que ça quand il faut travailler sur ce linéaire, effectivement, de 300 km, ce qui implique un certain nombre de déplacements et donc une action et de programmation, donc des escales, etc., assez fréquentes si on veut effectivement avoir une audience et puis une relation et un dialogue avec un nombre assez important d'habitants, ce qui est quand même ce qu'on cherche, avec cette clé d'entrée 2020 qu'on avait développée et qu'on prolonge en 2021, qui est effectivement la relation particulière des jeunes et de la Loire. Essayer de partir un peu à l'écoute de la façon dont les jeunes se construisent, ou en opposition, en acceptation, en harmonie, ou en ignorant complètement la présence du fleuve. Mais ça, c'est une question qui nous intéressait beaucoup.
Alors, comment vous travaillez, par exemple, avec les collectivités territoriales? Est-ce qu'elles viennent vers vous avec une question précise, ou est-ce que comment ça se passe? Comment ça marche?
Alors, on leur explique déjà ce qu'on fait. On revient régulièrement vers les collectivités à tous les niveaux, hein, que ce soit de la commune à l'intercommunalité, puis au département, région, pour reparler effectivement de l'inscription et de ce que ça implique. Parce que les collectivités ont signé un plan de gestion qui est un référentiel commun qui implique finalement un certain nombre de respecter un certain nombre d'orientations. Donc ça fait partie de nos missions avec les services de l'État, avec les services des collectivités. Donc c'est quand même un partenariat assez large. Et puis donc on anime des ateliers régulièrement, on appelle les rencontres territoriales, sur les territoires pour valoriser un certain nombre d'actions. Et ponctuellement, on peut effectivement répondre à des sollicitations pour essayer de les accompagner, pour réfléchir à des enjeux ou des questions qu'ils se posent autour d'une altération éventuelle d'un paysage ou d'un aménagement, et voir comment cet aménagement est compatible ou pas avec les critères mentionnés ou avec les orientations du plan de gestion. Donc on a cette fonction-là d'ingénierie technique, d'appui des collectivités, qui est essentiellement fondée sur le conseil, hein, puisqu'on n'a pas de pouvoir régalien, et le partenariat.
Alors, je ne sais pas, admettons qu'une municipalité a envie de recréer ou d'inventer une guinguette. C'est redevenu à la mode, disons. Alors, j'imagine qu'on ne peut pas implanter une guinguette n'importe où. Donc, comment...
Non, effectivement, on ne peut pas implanter une guinguette n'importe où, même si on aimerait bien en voir beaucoup. Il y en a déjà pas mal. On voit que c'est un succès. C'est une façon probablement intelligente et festive de s'implanter et de faire vivre ce dialogue, puisque c'est un vrai espace, pour le coup, culturel, festif, réversible. Donc, ça correspond quand même, ça coche beaucoup de cases dans ce qu'on a, nous, comme idée en tête pour réinvestir ou continuer d'investir la vie du fleuve. Par contre, effectivement, on ne peut pas le faire n'importe où. Donc, il faut prendre attache auprès de la DDT, des services de l'État, pour savoir si on est compatible avec les critères réglementaires du domaine public fluvial, si c'est, et puis quel est le cadre dans lequel on peut s'implanter. On peut, à proximité d'un monument, il faut effectivement faire des demandes, monter un dossier, le tester, recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Enfin, il y a tout un tas de d'étapes à franchir, mais c'est pas du tout impossible, hein, on le voit d'ailleurs. Et là, on peut tout à fait nous accompagner les collectivités qui le souhaitent, parce que c'est une démarche au contraire qu'on souhaiterait plutôt valoriser.
Voilà, donc en fait, c'est toujours une bonne idée de vous solliciter avant de se lancer dans quoi que ce soit pour être sûr que ça marche. Vous donnez des conseils, en fait, de ce que vous expliquiez là. Il faut solliciter telle personne. Ça peut éviter quelques dégâts, disons. Et alors, il se trouve que vous avez aussi un comité syndical. Alors, rien à voir avec les syndicats, je pense, voilà, dont on entend parler parfois selon l'actualité. Est-ce que vous voulez nous expliquer à quoi sert cette instance et de qui elle est composée?
Alors, c'est un peu comme un conseil d'administration pour une autre, pour une association, pour une entreprise. En fait, c'est le bureau qui regroupe les élus, donc qui président et qui font les choix des orientations de travail de la mission. Donc, c'est composé de 9 élus, hein, 6 élus de la région Centre-Val de Loire et 3 élus de la région Pays de la Loire, c'est la répartition un peu géographique. C'est présidé, ce comité syndical est présidé par la présidente de la région des Pays de la Loire, donc Madame Morançais, avec en premier vice-président le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau. Donc, et ça alterne, tous les 3 ans, la présidence change, passe d'une région à l'autre. Donc c'est vraiment un espace de gouvernance, hein, qui propose, valide les choix de la mission. On les fige en général pour 3 ans. Et ce comité se réunit plusieurs fois par an, vraiment comme un fonctionnement classique d'institution, hein, sauf que c'est un comité syndical parce que nous sommes un syndicat mixte.
Et alors c'est aussi vos financeurs, en fait, ces personnes ?
Ce sont aussi nos financeurs, oui, c'est un volet important. Avec la même clé de répartition, c'est-à-dire sur le budget global, 2/3 financés par la région Centre-Val de Loire et 1/3 financés par la région des Pays de la Loire. Oui.
Et vous avez même des observateurs permanents ?
Alors, des observateurs permanents. Nous avons un conseil scientifique et professionnel qui nous accompagne, qui est une instance qui est structurée dans le schéma de gouvernance, effectivement, qui apparaît, qui est composée d'une quinzaine de membres de spécialistes, donc de thématiques sur lesquelles on travaille, histoire de l'art, histoire de l'architecture, archéologie, dynamique sédimentaire, bio, environnement, écologie, donc on a des champs comme ça, patrimoine évidemment, et donc qu'on mobilise, c'est plutôt une dimension prospective, c'est-à-dire que là on leur propose plutôt des réflexions sur des sujets, ou de nous aider pour monter des colloques, ou de nous donner une sorte d'actualité de la recherche en cours. On a parlé des escales, là, il faut avoir en tête que la Loire c'est un formidable espace de travail et de réflexion. On l'a pas forcément. Il y a des pôles universitaires. Il y a une vraie présence de jeunes, d'étudiants, hein, c'est significatif. Et ça produit des secteurs de recherche relativement innovants, liés à l'environnement, par exemple, donc directement connectés au fleuve. Donc nous, on essaye de suivre cette actualité-là. On ne remplace pas le travail des chercheurs, mais on essaye à minima de le valoriser ou de participer aux publications, à la diffusion grand public des travaux de recherche. Et ce conseil scientifique nous aide et nous appuie pour ça.
Alors, puisque nous sommes sur la radio étudiante, avis aux auditeurs, quel genre de stage on peut peut-être venir faire à la mission Val de Loire ?
Alors, c'est assez large, hein. On a un spectre assez large qui va du patrimoine, de la médiation culturelle, en passant maintenant par les outils numériques, jusqu'à l'appui technique sur l'urbanisme, par exemple, l'urbanisme à visée patrimoniale, ce qui peut être intéressant. Ça peut aussi avoir une orientation sur le droit du sol, le droit du patrimoine. Enfin, on a des thématiques assez larges. Et évidemment, les étudiants et les étudiantes sont les bienvenus. On en accueille régulièrement, on enseigne parfois, d'ailleurs, ces sujets-là. Voilà, donc évidemment, plus on aura, et on est d'ailleurs en train de réfléchir à la façon dont on pourrait même renforcer, finalement, la présence de la mission, ou plutôt la présence de jeunes au sein de la mission. Donc on ne va pas vous dévoiler tous les secrets sur lesquels on travaille en ce moment, mais il y aurait quelque chose comme ça à l'avenir.
Ça s'appelle service civique, non ?
Ah, service civique, je crois qu'on n'en a pas eu. Alors moi, je suis pas très ancien dans l'histoire, mais je me tourne vers Francis.
Pas depuis que j'y suis, en tout cas.
Donc oui, pourquoi pas ?
Là, ou alors peut-être des partenariats plus attendus avec l'université de Tours.
Alors on a nos fameux campus qu'on a lancés depuis l'année dernière et qui connaissent un certain succès, bon, avec les aléas de la crise sanitaire, mais enfin qui se prolonge, et on a vu très vite que nos sujets et puis les thèmes sur lesquels on travaille trouvent une écoute, il y a une oreille attentive de la part de beaucoup d'enseignants, chercheurs de l'université de Tours, mais aussi d'Angers, mais aussi d'Orléans, de Blois, avec l'école du paysage. Donc on essaye, oui, dans la limite de ce qu'on peut faire avec nos ressources, mais oui, ça c'est vraiment un axe qui va devenir de plus en plus prégnant, de plus en plus développé. Oui.
Alors comment interviennent l'UNESCO et l'État sur vos travaux ? Est-ce qu'ils ont un droit de regard ? Est-ce qu'ils peuvent vous inciter fortement à prendre telle orientation, telle thématique ?
Alors, l'État, signataire de la Convention du patrimoine mondial, donc s'est engagé auprès de l'UNESCO à respecter évidemment les critères de la Convention et évidemment tout ce qui a été liée à l'inscription du Val-de-Loire. L'État travaille quotidiennement, et dans le cadre d'un partenariat actif, puisque nous-mêmes, pas au quotidien, mais pas loin, nous travaillons avec les services de l'État. Donc l'État est représenté à l'échelle des projets locaux, mais aussi dans les instances de gouvernance, puisque, effectivement, j'ai un peu oublié, dans le comité syndical et dans les instances, la présence du préfet de bassin et des membres. On a aussi un comité technique qui regroupe les spécialistes et les principaux acteurs, que sont la DRAC et la DREAL, les DRAC et les DREAL, puisqu'il s'agit des deux régions. Donc l'État est présent partout et assume pleinement son rôle à la fois régalien, mais aussi les engagements qu'il a pris dans le cadre du plan de gestion, c'est-à-dire de renforcer le classement des sites, les protections des paysages, etc. Donc ça, c'est développé, c'est un travail que nous menons en partenariat. Mais encore une fois, nous n'avons vraiment pas les mêmes modalités d'action territoriale, puisque nous agissons au niveau du conseil et de la médiation quand l'État a un pouvoir régalien d'autorité. Donc c'est évidemment, c'est assez complémentaire.
Eh bien, merci messieurs, cette émission va déjà toucher à sa fin. Alors peut-être, avant de se quitter, voulez-vous nous dire si vous avez des conseils de lecture, peut-être de publications intéressantes à recommander à nos auditeurs, ou peut-être des contenus sonores, vidéos, en lien avec la Loire peut-être, ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que vous aimeriez recommander à nos auditeurs majoritairement étudiants?
Moi, peut-être la bande dessinée d'Alain Bujac, Au Vive, qui sort ou qui va sortir, là, et dont on a vu les bonnes planches, et qui est passionnante parce qu'elle raconte l'avant-inscription. Elle raconte les luttes contre les barrages, et puis ce qui a finalement fédéré l'idée que la Loire soit un fleuve sauvage. C'est tout à fait discutable, mais au moins il y a une très belle, il me semble, une très belle fresque en plus, voilà, très belle. Alain Bujac, et j'ai oublié le nom du dessinateur illustrateur.
Damien Roudot. Damien Roudot.
Voilà. C'est mon conseil.
Voilà. Alors elle n'est pas encore sortie, mais ça ne saurait tarder. Mais effectivement, je pense que ce sera un ouvrage à lire absolument.
Le must read. Alors c'est transition parfaite aussi, puisque nous serons partenaires du festival À Tour de Bulle, qu'on aura le plaisir de recevoir mercredi dans ce parasol Les Bords de Loire. Eh bien messieurs, je vous remercie. Julien, le mot de la fin.
La Loire.
Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos non moins excellents programmes.
Eu cheguei lá, mas me esqueci do que ia dizer, do que ia falar. Eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu cheguei lá, mas me esqueci do que ia dizer, do que ia falar. Eu cheguei lá, eu cheguei lá. Maria Amélia, eu passei toda noite sonhando. Maria Amélia, eu passei toda noite pensando. Lindas palavras que eu preparei pra lhe dizer, mas me esqueci, mas me esqueci. Eu cheguei lá, mas me esqueci do que ia dizer, do que ia falar. Eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu cheguei lá, mas me esqueci do que ia dizer, do que ia falar. Eu cheguei lá, eu cheguei lá. Maria Amélia, eu passei toda noite sonhando. Maria Amélia, eu passei toda noite pensando. Lindas palavras que eu preparei pra lhe dizer, mas me esqueci, mas me esqueci. Eu cheguei lá, mas me esqueci do que ia dizer, do que ia falar. Eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu cheguei lá, mas me esqueci do que ia dizer, do que ia falar. Eu cheguei lá, eu cheguei lá. Maria Nélia, eu passei toda noite sonhando. Maria Nélia, eu passei toda noite pensando.